France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Un premier détour au standard de France Inter où Pierre, qui nous appelle d'Annecy, a une question pour Enrico Letta. Bonjour Pierre et bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour messieurs. Je voulais savoir si en amont du problème des migrants, la politique de l'Europe, et notamment de la France en Afrique, peut avoir un impact. Est-ce qu'on a une responsabilité? C'est une question. Hein. On sait depuis longtemps que beaucoup de dictateurs africains ont été quand même mis en place, il semblerait, à moins que ce soit un fantasme par les Français. En tout cas, c'est un sentiment qui est partagé par les Africains. Ils pensent qu'ils n'ont pas la responsabilité dans leur pays. Il y a beaucoup d'exploitants miniers qui sont des propriétaires européens, occidentaux en tout cas. Et c'était la question qu'on peut se poser, je sais pas. Quand on voit c'est une caricature, hein, mais le sketch de Dieudonné Mbala sur Biya, qui est président du Cameroun, c'est assez hilarant, mais ça semble être un sentiment partagé par beaucoup d'Africains. En fait.
Bon, on va laisser les sketchs de Dieudonné, si vous voulez bien. Pierre, pour revenir à votre question, la responsabilité de la France, eu égard à son passé, évidemment, de puissance coloniale, dans la gestion aujourd'hui de cette crise des réfugiés.
Bon, je pense qu'aujourd'hui, la question clé est quel sera le futur de l'Afrique en termes de développement et de possibilité de donner à ces jeunes des opportunités chez eux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles les gens veulent seulement s'échapper de ces pays. Donc, on a un grand problème. Le problème est un problème méditerranéen, premier, et un problème d'Afrique subsaharienne, deuxième. Donc là, ou bien au niveau européen, et non pas seulement français, il y a une approche un peu différente, donc une approche de développement, d'infrastructure, je pense à l'électricité, je pense à ce très beau projet
De
Jean-Louis Borloo, que j'aime, c'est une idée très intelligente, et aussi aider avec le numérique. Vous avez eu un pays, par exemple, comme le Kenya, qui aujourd'hui a des solutions super. Le Kenya est beaucoup mieux que beaucoup d'autres pays européens sur la question des paiements non par cash. Donc, ou bien on fait ça, ou bien les migrations vont être un problème insoluble.
Est-ce qu'Anthony Bélanger ? C'est pieux malgré tout, parce que quand on a une différence de revenus de 1 à 15 ou de 1 à 20 entre une partie et l'autre de la Méditerranée, est-ce qu'on, de toute façon, le développement de ces pays prendra une génération, deux générations, trois générations ? Le problème est pour maintenant, pour aujourd'hui.
Oui.
Est-ce qu'il vaudrait mieux pas tout simplement se mettre au carré avec l'idée qu'on ne pourra pas arrêter ces vagues de migration et qu'il vaut mieux les organiser plutôt que de les...
Je pense qu'il faut faire les deux choses, c'est-à-dire il faut les organiser aujourd'hui avec cette séparation entre réfugiés et migrants économiques, mais en même temps, aujourd'hui, le numérique vous donne la possibilité de sauter des marches et dans le développement. Donc ceux qui, dans le passé, avaient besoin de dizaines et dizaines d'années, aujourd'hui, l'exemple Kenya, paiement électronique est la démonstration de ça, peut vous donner des chances de faire tout ça plus rapidement. Mais il faut qu'il y ait une attitude politique différente et il ne faut pas faire de faute comme moi je suis parmi ceux qui pensent que la France et le Royaume-Uni ont fait une grande erreur en Libye, par exemple, en 2011. Parce que la guerre, quand on l'a fait, il faut savoir ce qui se passe le jour après. Et la guerre en Libye a laissé le total chaos en Libye. Je ne suis pas en train de défendre Kadhafi, qui était un dictateur affreux.
Mais si on intervient... Nous avons laissé, grosso modo, l'Italie face à face avec le chaos,
oui,
en face
et en
sur les côtes libyennes.
Et en fait, à la fin, l'Italie, c'est l'Europe. Donc, on paie tous ce problème-là.
Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes en direct sur Inter.
Oui, je vous en prie. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre émission. Je vous appelle de Trébordin, dans les Côtes d'Armor. Il y a d'autres solutions à l'exode migratoire. Aider ces pays à construire leur économie, à fixer ainsi ces populations dans leur propre pays. Sollicitons les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, les pays du Golfe, à rassembler chaque année un pactole de milliards de dollars. Créons un organisme payeur dépendant de l'ONU qui financerait avec cette manne les projets pour le développement de l'économie des pays africains. Cela mettrait une fin à cet exode qui, chaque année, voit périr en Méditerranée des milliers de migrants. Cela mettrait un terme au trafic scandaleux et juteux des passeurs sans foi ni loi. Je vous remercie.
Merci à vous, Enrico Letta.
Bon, la question, naturellement, on le sait très bien, est liée à l'état de ces pays, de ces démocraties, au niveau de corruption, au fait que quand l'argent arrive, on ne sait pas si vraiment, dans beaucoup de ces pays, l'argent arrive jusqu'aux citoyens et jusqu'aux vrais projets de développement. Donc, il est vrai qu'il faut qu'on s'engage dans des projets de développement. L'idée dont je parlais auparavant est une de celles, mais il est vrai aussi que les deux choses doivent être faites en même temps. C'est-à-dire, tout ça est nécessaire pour le futur proche, mais il faut tout de suite chercher de faire en sorte que l'Europe ait les pouvoirs pour gérer ce partage et pour gérer cette situation. Jusqu'à maintenant, chaque pays a joué le bouc émissaire et on est resté là sans être en condition de gérer la question.
Encore un détour au standard de France Inter 01 45 24 7000 où nous attend Anaël. Bonjour Anaël.
Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je vais être un petit peu à contre-courant des auditeurs précédents. Je pense que l'accueil des migrants constitue une chance pour l'Europe. Et je voulais savoir, en tant que président de l'Institut Jacques Delors, comment l'Union européenne peut-elle encourager les États membres à sortir de la politique migratoire de la sécurité, de la seule dimension sécurité, et proposer une véritable politique globale d'accueil des migrants, associant la politique économique, la culture et l'habitat. Je donne un exemple. Anne Hidalgo a proposé une loi sur l'accueil des migrants, qui me semble tout à fait intéressante, mais je pense que l'Union européenne devrait encourager les États membres à montrer que l'accueil des migrants est une véritable chance pour l'Union européenne. D'ailleurs, il y a une exposition à Milan, Terra Inquieta, qui expose la problématique des migrants et expose des pistes de solutions qui peuvent être tout à fait intéressantes.
Enrico Letta,
qu'en pensez-vous ? Il faut qu'il y ait premièrement une harmonisation des règles. Aujourd'hui, chaque pays fait un peu comme il veut sur la question de l'accueil. Et ça ne marche pas. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une forte poussée pour l'intégration culturelle. Donc là, je suis en faveur d'une question liée au quota. Il faut éviter qu'il y ait des États dans des États, c'est-à-dire qu'il y ait des communautés nationales trop importante dans chaque pays. L'exemple, je pense, non positif est celui de l'Allemagne, qui a aujourd'hui des millions de représentants d'une même provenance identitaire.
Vous souhaitez des quotas,
les Turcs, par exemple.
Vous souhaitez la mise en place de quotas, c'est-à-dire ça prendrait quelle forme ?
Il faudrait qu'il y ait une possibilité de repartir, donc de fragmenter les présences en faisant en sorte que l'intégration, c'est un peu la chose des écoles. Si vous avez dans une école une moitié de gens qui viennent d'une identité d'immigration, c'est plus difficile de les intégrer. Il faut qu'ils soient en condition.
Vous êtes très français dans votre analyse. Vous ne souhaitez pas la constitution de communauté. Vous souhaitez.
Il faut l'intégration. Il faut qu'ils apprennent les langues des pays dans lesquels ils viennent. Mmh. Il faut naturellement qu'il y ait une rencontre des cultures. Mais je pense que tout ça est une des façons pour faire
pour
que
être
ça,
clair,
ça,
monsieur
ça
l'État, l'Europe vieillit. Nous avons un problème de démographique extrêmement important. Nous perdons de la population dans plusieurs parties de l'Union européenne, nous ne faisons pas assez d'enfants. Est-ce que tout simplement l'immigration ou les migrants n'est pas une solution ?
Oui, c'est une solution si, à la condition qu'on puisse les intégrer. Ça, c'est la question que je pose. Donc, il faut que la façon de les intégrer, je prends l'exemple du Canada.
Donc, plutôt que de se cacher derrière son petit doigt en disant il faut organiser le développement sur place, on l'a vu ensemble, non, ça prendra 40 ans, autant y aller directement.
Il faut les intégrer. Mais l'intégration a besoin d'une intégration dans notre culture, dans nos langues, et ça c'est incontournable, je pense. Une chose qu'on est en train de lancer à l'Institut Jacques Delors, aujourd'hui même, je suis ici aussi pour le dire, on lance cette académie Notre Europe dans le nom de Jacques Delors. C'est une idée de dire, c'est une question culturelle. Donc il faut aider les gens à connaître mieux l'Europe, à se préparer mieux. C'est une question qui vous concerne, à vous les journalistes aussi, parce qu'on a lancé ce projet qui va aujourd'hui sur le site academienotreeurope.eu, on trouve toutes les données. C'est l'idée de dire, l'année prochaine, on lance un projet d'éducation pour rendre les citoyens plus informés sur l'Europe. Et ce sont deux groupes de cibles, les jeunes de 18 à 26, ils peuvent s'adresser à ce site et participer à cette activité de formation. Et les jeunes journalistes, parce qu'on a trouvé que vous, les médias, vous avez un rôle, vous jouez un rôle essentiel. Donc si vous êtes en condition de faire passer un message, un bon message sur l'Europe, informez ça aide beaucoup. Donc voilà, c'est le deuxième groupe, c'est un groupe de...
Donc vous voulez nous éduquer sur l'Europe?
Non, on veut vous donner la possibilité d'en savoir plus. Vous savez, la quantité de
c'est
fake news...
C'est jésuitique, cette manière de dire les choses.
Oui, je le suis un peu peut-être. Mais vous savez, la quantité de fake news que passe autour de l'Europe est absolument incroyable, même sur la question des migrants. On fait le bouc émissaire et on ne veut pas donner à l'Europe les compétences pour gérer la chose.
Enrico Letta, un mot sur Emmanuel Macron, si vous voulez bien. Est-ce qu'il a raison de s'attaquer au code du travail? C'est une question qui a beaucoup occupé l'Italie ces dernières années. J'ai le souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'Italie est, je crois, passée à la retraite à 67 ans, sans qu'il y ait d'ailleurs de manifestations monstres chez vous en Italie. Est-ce que la France est un pays qui est réformable ou irréformable, comme l'a dit le président il y a quelques jours?
Bon, c'est son défi, il est clair. Il a gagné les élections avec ce grand défi. Et donc maintenant, c'est le delivery qui est devant lui. Je pense que la France est réformable et je pense que c'est l'intérêt de l'Europe même d'avoir tout ça, parce que si la France fait les réformes, la France est en condition de convaincre l'Allemagne à bouger. Parce que sinon, l'Allemagne, comme on le disait auparavant, va continuer à dire « Bon, la France ne fait pas les réformes, donc nous, on ne partage pas notre pouvoir économique avec les autres. » Donc, c'est l'intérêt de tous. Le code du travail est important, mais naturellement, les retraites aussi, parce que on sait très bien que l'espoir de vie monte. Et donc, il faut savoir qu'on ne peut pas avoir des trous de bilan sur ces sujets-là.
Anthony Bélanger,
dites-moi, tout le monde rêve d'être Emmanuel Macron en Europe, à commencer par Matteo Renzi, je crois, qui a mené une campagne il n'y a pas très longtemps, en reprenant son slogan, une Camino, hein, je crois, en marche, hein, et qui aujourd'hui est redevenu président, secrétaire général du Parti démocrate, parti auquel vous appartenez en Italie. Qu'est-ce que vous pensez de la croisade de Matteo Renzi pour récupérer son pouvoir?
Bon, c'est ce qu'il veut faire. Naturellement, c'est totalement légitime. Je trouve que son parcours est totalement différent en termes de projet et programme par rapport à ce que Macron est en train de faire. Macron est en train de faire un programme et un parcours qui a un fort dessin européiste, ce qui n'est pas le cas. Bon, les dernières choses qu'il a annoncées, c'est totalement différent de tout ça. Par exemple, c'est sur les questions migratoires, on est sur deux lignes totalement différentes. Il a pris une ligne, il a fait des annonces en disant, bon, la question est seulement de les aider chez eux. Qui est quelque chose que j'ai entendu de la voix de la Ligue à Nord. Voilà, c'est une chose qui, en plus, il faut faire du développement chez eux, mais il faut savoir, comme vous disiez auparavant, que ou bien on gère l'accueil aujourd'hui chez nous d'une façon équilibrée, concrète et efficace, ou bien c'est le chaos comme c'est aujourd'hui. Et donc, ceux qui gouvernent les pays ont la responsabilité de ne pas laisser leurs citoyens dans le chaos comme c'est aujourd'hui sur la question migratoire.
Donc on a bien compris, Matteo Renzi, c'est pas votre tasse de thé, visiblement.
Bon, ça n'a jamais été. C'est pas une nouveauté.
Un mot, Enrico Letta, si vous voulez bien, du Brexit. On a la date de sortie, le bon de sortie de l'Europe. On sait que ce sera à la fin du mois de mars 2019, mais est-ce que le Brexit sera, au final, dans quelques années, une chance, un désastre, un accident dans l'histoire de l'Europe?
Je pense qu'à la fin, c'est très difficile de faire aujourd'hui des pronostics, des prévisions. Je vous dis la mienne, à la fin, ils vont faire un deuxième référendum sur les conséquences de la négociation et ils vont rester. Parce que après.
Tout ça pour ça.
Ouais. Après tout ce qui est en train de se passer, après une année dans laquelle tout semblait fantastique, sortir super, maintenant ils sont divisés entre eux. On a compris que c'est un chaos. Ils n'ont aucune idée de où aller, parce que le Norvège était le modèle.
Ils sont divisés, Enrico Letta, mais ils ont voté souverainement, les Britanniques, pour le Brexit. Est-ce qu'on peut vraiment, encore une fois, repasser au-dessus des peuples, comme on l'a déjà fait en France il y a quelques années?
Je ne vous dis pas qu'il faut repasser au-dessus des peuples. Je vous dis qu'un deuxième référendum, de mon point de vue, va changer les choses. Parce qu'ils ont voté pour le Brexit. Mais qu'est-ce que le Brexit? Ça, c'était le point essentiel. On comprend maintenant qu'il n'y a pas un Brexit. Il y a au moins trois Brexits. Le Brexit des campagnes anglaises qui voulaient plus de protectionnisme et moins de gens autour d'eux. Le Brexit des gens de la City qui voulaient être la Singapour d'Europe et donc qui veulent exactement le contraire, plus de mondialisation. Le Brexit des gens autour de Corbyn, de ceux du Labour qui ont voté pour le Brexit, qui veulent plus de social à la... ancien Labour. C'est une troisième idée. Donc, le vrai problème, c'est que le référendum a eu une question qui était une question mal posée, parce qu'il n'y a pas un Brexit, et aujourd'hui ils sont en train de voir comment tout ça est compliqué.
Voilà, on verra comment se terminent ces négociations sur le Brexit. Merci beaucoup Enrico Letta d'avoir été ce matin au micro de France Inter. Il est 9h05.